Bonsoir. Le régime libyen du colonel Kadhafi a-t-il financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Oui, affirme Mediapart, qui révèle l'existence d'un carnet accréditant cette thèse. Ce carnet est entre les mains de la justice. Dans un instant, le témoignage de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. 15 salariés d'Air France jugés à Bobigny pour l'affaire de la chemise arrachée au DRH de la compagnie. Les images avaient fait le tour du monde. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Maret. En Syrie, l'armée du régime Assad lance une première offensive terrestre sur les quartiers rebelles d'Alep. Nous ferons le point avec Laure Stéphan à Beyrouth et nous évoquerons l'incapacité de l'ONU à arrêter le conflit syrien avec notre invité, le chercheur Bruno Tertrais. Mediapart relance la polémique sur la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy. Le site d'information affirme aujourd'hui que la justice dispose d'un élément pouvant accréditer la thèse d'un financement libyen de cette campagne. Il s'agit en l'occurrence d'un carnet appartenant à un ancien dignitaire du régime Kadhafi, Choukri Ghanem. On y trouve, selon Mediapart, le détail de 3 versements destinés au candidat Sarkozy pour un montant total d'environ 6,5 millions d'euros. Pour l'un des deux auteurs de l'enquête, Fabrice Arfi, ce carnet a une importance capitale. Fabrice Arfi répond à Ludovic Piétenu.
On a pour la première fois la trace écrite, documentée, même consignée, un peu comme un vieux comptable, de versements assez précis, puisqu'on a des gens qui envoient l'argent, leur identité et des montants, et une date précise, qui est celle de la réunion au sommet entre dignitaires libyens où ont été faites ces révélations.
Votre note de 2006 parlait d'un montant de 50 millions. Là, sur ce carnet, ouais, Vous ne retrouvez que 6,5 millions d'euros.
Oui, ce qui est déjà considérable. Nous ne disons pas que le carnet parle de la totalité de ce qui a été versé. Peut-être y a-t-il eu de l'argent avant. Donc maintenant, il faut remonter le fil des traces bancaires de tout cela. On avait déjà publié des informations sur des circuits bancaires transitant par le Liban, l'Allemagne, la Suisse, pour remonter tout cela. Le problème, c'est que évidemment, ce type de dossier ne se règle pas de compte à compte ou avec un chèque endossé au nom de Monsieur Sarkozy. Il y a un moment des espèces. C'est pour ça qu'on les utilise, les espèces. Si je dis ça, c'est parce que il y a beaucoup de témoignages qui disent que tout cela s'est terminé en Suisse en espèces, et il y a même des témoignages pour dire qu'il y avait beaucoup d'espèces dans la campagne de 2007 de M. Sarkozy. Donc aujourd'hui, c'est à l'œuvre judiciaire de démêler cet écheveau-là.
Fabrice Arfi, rappelons que dans cette enquête sur un possible financement libyen de la campagne Sarkozy de 2007, Claude Guéant a été mis en examen. L'ancien secrétaire général de l'Élysée du temps de Nicolas Sarkozy est poursuivi pour faux usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. La justice s'interroge sur un virement suspect de 500 000 euros dont a bénéficié Claude Guéant. Nicolas Sarkozy, lui, n'a pas encore réagi à ces nouvelles accusations de Mediapart. Comportement de voyous ou légitime colère des salariés, deux versions s'affrontent au procès de la chemise arrachée d'Air France. Sur le banc des prévenus depuis ce matin au tribunal de Bobigny, 15 employés de la compagnie jugés pour les incidents du 5 octobre 2015. Ce jour-là, plusieurs dizaines de salariés avaient forcé les portes du comité central d'entreprise pour dénoncer la suppression annoncée de 2900 emplois. Le DRH d'Air France, Xavier Brosetta, avait eu la chemise arrachée. Le patron de l'activité Long Courrier, Pierre Plissonnier, avait lui aussi été malmené. Le tribunal a examiné aujourd'hui le film des incidents. Antoine Maret suit ce procès pour France Culture.
Dans ce procès où il y a peu de témoignages et beaucoup d'images, des images des nombreuses équipes de télévision venues couvrir ce qui devait être au départ une simple manifestation. Des images de manifestants qui ont filmé la perturbation du CCE avec leur téléphone portable et les images de vidéosurveillance récupérées par les autorités. Elles témoignent des violences subies par le directeur des RH et celui des longs courriers. Ils sont pris à partie par des manifestants. L'un repart en catastrophe avec la chemise et le costume en lambeaux. L'autre est évacué torse nu. Ces images, elles ont fait le tour du monde, rappelle à la barre le directeur des longs courriers, Pierre Plissonnier. 1,7 milliard de vues, comme pour les JO. Imaginez l'humiliation, affirme l'homme tranquille au costume impeccable. Dans toute ma carrière, j'ai pu rencontrer des difficultés, mais je n'ai jamais connu d'événement de ce type. Mais lui, comme son collègue, est bien incapable de dire qui a fait quoi. Et personne ou presque ne parle. Il y a bien ce vigile qui affirme avoir reconnu l'un des prévenus portait des coups à Pierre Plissonnier, mais il est le seul à parler. Alors, on fait parler les images, on les projette, on fait circuler les captures d'écran pendant l'audience. L'une d'entre elles montre un des prévenus tendant le bras vers Pierre Plissonnier. Je ne l'ai pas touché, se défend-il. Et votre main qui s'étire de plus en plus vers le directeur, lui demande Narquois, l'un des avocats de la partie civile. Oh, ça c'est juste une impression due à l'angle de prise de vue, affirme le prévenu sans sourciller. Ce soir, après cette première journée d'audience, une chose est claire, chacun fait parler les images comme ça l'arrange.
Antoine Marette, merci. À l'appel de la CGT, plusieurs centaines de salariés d'Air France ont manifesté aujourd'hui leur soutien aux 15 prévenus devant le tribunal de Bobigny. S'agit-il d'un tournant militaire dans le conflit syrien ? En tout cas, l'armée syrienne, épaulée par des miliciens irakiens ou libanais, a lancé ce matin une offensive terrestre sur les quartiers est d'Alep, une zone tenue par la rébellion depuis 2012. Cet assaut a été précédé de raids aériens massifs effectués par les avions russes et syriens, des bombardements qui ont fait des centaines de victimes parmi la population civile. On fait le point avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stéphan.
La situation reste confuse à Alep, dans le secteur de la vieille ville, sur la ligne de front de la métropole divisée en deux. Les forces pro-régime, c'est-à-dire l'armée et les milices étrangères qui lui sont alliées, ont lancé un assaut vers la zone rebelle. Les informations restent contradictoires. Les médias pro-régime ont annoncé que l'armée s'était saisie de tout un faubourg. Les insurgés, de leur côté, démentent une avancée majeure. L'offensive terrestre qui a commencé a été précédée par des bombardements d'une violence inédite au cours des derniers jours menés par les aviations syriennes et russes. Le régime est déterminé à reprendre l'est d'Alep. C'est une vaste zone dans l'ancienne capitale économique et cette zone est sous contrôle de l'insurrection depuis plus de 4 ans. Des combats ont aussi lieu dans les environs de la grande ville du nord de la Syrie. Mais si une attaque terrestre est en cours, la situation militaire est très volatile. Pour preuve, il y a quelques jours, les forces pro-régime ont pris une position importante aux rebelles au nord d'Alep avant de la perdre quelques heures plus tard. Un revers, malgré l'afflux massif depuis août, de renforts de l'armée et de ses milices alliées. Pour des militants de l'opposition joints à Alep, le scénario redouté pour l'instant est celui de la poursuite des destructions par les frappes aériennes et de la prolongation du siège des faubourgs rebelles en cours depuis près de 3 semaines.
Laure Stéphan, merci. Le sort des civils d'Alep inquiète la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient en ce moment une nouvelle réunion sur la crise syrienne. Invité de ce journal, Bruno Tertrais, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Tertrais, l'ONU a-t-elle encore les moyens d'empêcher la poursuite des combats à Alep et en Syrie en général ?
Bien sûr qu'elle l'aurait si ses membres permanents, si les membres permanents du Conseil de sécurité étaient tous d'accord. Ce n'est pas le cas. Rappelons quand même qu'il y a deux choses quand on parle de l'ONU et du conflit syrien. Il y a d'abord les efforts de l'envoyé spécial Staffan de Mistura, qui est chargé d'essayer d'élaborer un plan de paix, pour faire simple. Mais il y a surtout le Conseil de sécurité, et là, la Russie est dans les faits un obstacle, un consensus qui permettrait de mettre un terme à ces massacres et à ces véritables crimes de guerre et peut-être de crimes contre l'humanité qui sont en train de se produire. Quand l'un des membres du Conseil, d'un membre permanent du Conseil de sécurité est lui-même en train de bombarder, que voulez-vous que fasse l'ONU ?
Donc en fait, cette impuissance de l'ONU aujourd'hui est uniquement imputable à l'attitude de Moscou ?
Très franchement, pour moi, elle est essentiellement imputable au fait que l'un des membres permanents du Conseil de sécurité a décidé de violer le cessez-le-feu, ne veut pas lâcher Bachar al-Assad, et dans les faits se comporte d'une manière qui est totalement indigne, en soutenant directement les bombardements syriens et en procédant elle-même à des bombardements sur les objectifs civils. Oui, effectivement, je le confirme, à mon sens, la Russie est aujourd'hui un obstacle à un règlement négocié, et même avant cela, un cessez-le-feu qui permettrait au moins un règlement, des secours humanitaires à la population d'Alep.
Alors comment faire pour sortir de l'impasse diplomatique, en tout cas du point de vue de l'ONU ? Il faudrait peut-être réformer le Conseil de sécurité pour en finir justement avec ce droit de veto ?
Mais soyons sérieux, personne ne va réformer le Conseil de sécurité. Il faudrait l'accord même des 5 puissances permanentes et aucune d'entre elles ne le souhaite. On ne peut pas. Arrêtons de dire que c'est l'ONU le problème. Le problème, c'est que les grandes puissances n'ont pas du tout la même stratégie. Il y en a une des deux qui souhaite le maintien au pouvoir du régime syrien et qui fait tout pour cela, et l'autre qui hésite entre l'impuissance et l'aveuglement. Je parle bien sûr des États-Unis.
Cette situation de blocage, Bruno Tertrais, elle peut évoluer selon vous ? Est-ce que Moscou peut, en fin de compte, se ranger aux arguments des Occidentaux ?
Oh, si Moscou changeait de position, ça serait absolument pas parce qu'elle a vu la lumière et parce qu'elle se range aux arguments des Occidentaux. C'est parce qu'elle estimerait que ses objectifs sont atteints, que l'État syrien est préservé, qu'elle restera présente en Syrie. Et alors là, peut-être qu'elle se décidera à laisser tomber la personne de Bachar el-Assad, car aujourd'hui, c'est un petit peu la clé et le symbole. Si, dès lors que Moscou acceptera de lâcher la personne de Bachar el-Assad, on pourra s'entendre entre Européens, Américains, Russes et peut-être Iraniens aussi, sur un mode de transition qui préserve une partie du régime. Mais il est absolument impensable pour la grande majorité de la population syrienne, en tout cas pour l'opposition armée, je parle de l'opposition démocratique, qu'on puisse faire la paix avec Bachar el-Assad encore au pouvoir. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra préserver ce qu'il y restera de l'État syrien et donc une partie du régime.
Est-ce que ça veut dire, Bruno Tertret, finalement, que seule une issue militaire, la victoire d'un camp sur l'autre, mettra fin au conflit en Syrie ?
Non, c'est bien évidemment une issue politique qui mettra un terme au conflit, mais je crains que cette issue politique ne passe par d'autres évolutions militaires, un changement radical dans un sens ou dans un autre, peut-être un échec, un effondrement de l'armée syrienne, on n'en est pas très loin, peut-être à l'inverse un changement de stratégie de la part des États-Unis dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs après l'élection du mois de novembre. En tout cas, pour l'instant, rien ne permet de dire qu'on soit à la veille d'une solution politique en Syrie.
Bruno Tertret, pour en revenir à l'impuissance de l'ONU, comment sortir de cette situation ? Il faut imaginer une réforme de l'ONU ou bien il faut tenir comme acquis ce blocage qui sera toujours imputable à l'un ou l'autre membre du Conseil de sécurité ?
Je ne crois pas du tout qu'une réforme du Conseil de sécurité soit possible. Vous savez, les grandes institutions internationales, elles naissent au moment des grands conflits mondiaux. On ne va pas souhaiter évidemment une guerre mondiale, mais je ne vois vraiment pas ce qui pourrait faire qu'on change les règles de procédure, on change de manière tout à fait significative les règles de procédure au Conseil de sécurité. Ce qui était en 1945 une protection contre, justement pour que le Conseil de sécurité n'agisse pas contre l'un de ses membres, est devenu effectivement un facteur de blocage dans bien des crises. Heureusement, il n'y a pas que la Syrie, il y a d'autres sujets sur lesquels l'ONU et le Conseil de sécurité en particulier est beaucoup plus efficace.
Donc il faut s'accommoder de cette situation, en tout cas pour le moment.
Nous n'avons pas le choix.
Merci Bruno Tertret, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je précise que vous venez de publier avec le journaliste Jean Guinel un ouvrage sur la France puissance atomique, Le Président et la Bombe, Jupiter à l'Elysée, livre paru cette année chez Odile Jacob. Un verdict historique à La Haye, la Cour pénale internationale a condamné aujourd'hui à 9 ans de prison un djihadiste malien, Ahmad Al-Mahdi, a été reconnu coupable d'avoir ordonné et dirigé la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012. C'est la première fois que la CPI prononce une condamnation pour un crime de pierre, en l'occurrence une atteinte au patrimoine de l'humanité. On va terminer ce journal par un retour sur le premier face-à-face télévisé de la campagne présidentielle américaine la nuit dernière et de la vie générale. C'est Hillary Clinton qui a remporté ce débat face à Donald Trump. C'est en tout cas ce que disent les premiers sondages et les commentaires de la presse américaine. Seulement voilà, le républicain Donald Trump a jusqu'à présent toujours déjoué les pronostics et les éditoriaux des grands journaux américains. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
Même le New York Post, très favorable à Donald Trump, ne va pas jusqu'à le donner gagnant de la confrontation. Pour le tabloïd new-yorkais, c'est un bagarreur qui a survécu au débat. Et effectivement, comme un boxeur sonné, après un round difficile, il promet de repartir au combat plus vaillamment. « La prochaine fois, je taperai plus fort », lance Donald Trump. Message assorti de cette touche d'humanité, c'est parce qu'il y avait Chelsea Clinton dans la salle que je me suis abstenu d'évoquer les frasques de son père. Sa retenue la nuit dernière lui vaut au moins une forme de récompense. Les dirigeants républicains, souvent embarrassés par ses excès, se précipite pour le soutenir, lui le candidat du changement, par rapport à l'immobilisme Clinton. Pour la candidate démocrate, l'espoir c'est justement que ce débat initie un mouvement. Elle est ostensiblement rayonnante quand elle monte dans son avion pour repartir en campagne et elle se dit très excitée à l'idée de rassembler les Américains. Elle continue pour cela de compter sur le rejet de l'adversaire. La nuit dernière, elle s'est concentrée sur le cas Trump et aujourd'hui, elle affirme que le débat a démontré qu'il était incapable de diriger le pays.
Frédéric Carbone, merci. Deux autres débats sont donc prévus avant l'élection du 8 novembre. Le prochain face-à-face Trump-Clinton aura lieu le 9 octobre prochain. Un mot de la météo demain. Mossad au nord, ensoleillé au sud. La matinée sera faiblement pluvieuse des pays de la Loire à la frontière belge. Au sud, le soleil s'imposera rapidement. Température maximale toujours élevée pour la saison. 22 à 25 degrés sur la moitié nord. 26 à 28 sur le sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.